Bonjour et bienvenue pour ce numéro du Club Radio Santé à Avion avec Micro Rebelle et la Maison des Habitants. Pour préparer cette émission, nous nous sommes intéressés aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes sourdes ou malentendantes, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans l'accès aux soins. Nous nous sommes aussi posé la question de la possibilité de généraliser l'apprentissage de la langue des signes française. Cette émission sera co-animée par Anna et moi-même, Audrey, et notre invité, le docteur Benoît Drillon, responsable d'unité d'accueil et de soins du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et coordinateur du réseau Sourds et Santé. Pendant cette émission, nous diffuserons également donc l'interview de Carmen Flamand de l'association Trèfle à Arras, association qui a pour but de favoriser les relations entre entendants et sourds à travers diverses actions, tout en améliorant l'accessibilité. L'association Trèfle est également centre de formation à la langue des signes française. Bonjour docteur.
Bonjour.
Donc quelques chiffres pour rappeler la situation sur la surdité en France. Selon une étude de 2014, donc de la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation et des Statistiques, 182 000 personnes se définissent comme ayant une surdité complète, donc qui représente 0,3% de la population totale. 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition, donc soit 16% de la population française. Et pour 5,4 millions de ces personnes, il y a des répercussions sur la vie quotidienne. Après 50 ans, donc une personne sur trois ont des difficultés auditives et plus d'une sur deux après 80 ans. 20% des personnes ayant des limitations fonctionnelles auditives moyennes à totale sont équipées d'un appareil auditif. Donc plus de 2 millions de personnes ne portent pas d'appareil mais en auraient besoin. Enfin, donc en 2008, il a été comptabilisé qu'en France, 283 000 personnes utilisaient la langue des signes française.
Il nous a paru important de faire un point sur cette situation. Docteur Drillon, vous coordonnez un réseau d'accueil pour les personnes sourdes au sein du réseau Sourds et Santé. Pouvez-vous nous présenter ce réseau Sourds Santé et nous expliquer votre rôle ?
Alors, le réseau Sourds et Santé, c'est un dispositif qui permet aux sourds de toute la région Nord-Pas-de-Calais un accès aux soins en langue des signes. Donc ça concerne les sourds qui communiquent en langue des signes, donc hein, à peu près 200 000 comme vous l'avez dit, c'est un ordre de grandeur, c'est à peu près un millième de la population. Donc pour toute la région Nord-Pas-de-Calais, on estime à peu près 4 000 sourds concernés par ce type de dispositif. Et alors qu'est-ce que c'est concrètement? Ça permet à un sourd qui souhaite consulter n'importe où de faire appel à notre réseau, et le réseau va organiser l'accompagnement là où il va consulter, que ce soit chez un médecin libéral, à l'hôpital, en clinique, n'importe où, va organiser sa consultation avec un interprète français langue des signes, par quoi un médiateur en plus lorsque le patient ne comprend pas bien et qu'il faut reformuler un certain nombre de choses. Ça c'est une partie du dispositif. Alors moi-même je suis responsable du service et moi-même je fais des consultations directement en langue des signes et on a des implantations dans différents endroits de la région. Les plus proches d'ici c'est à Herli, au centre de santé d'Herli et à l'hôpital d'Arras, sinon on travaille sur Lille aussi, Dunkerque, Valenciennes. Et donc où les patients que je vois sont des sourds qui ont pour la plupart des pathologies chroniques, diabète, hypertension, insuffisance de tout type, pour lequel il y a une dimension éducative nécessaire pour pouvoir se soigner correctement. Et donc ils viennent nous voir et on va travailler avec eux sur la compréhension de leur pathologie, faire de l'éducation à leur maladie lorsque c'est nécessaire, etc. Alors ils peuvent nous consulter en première ligne aussi s'ils le souhaitent, mais c'est pas la majorité des situations, hein. La plupart des patients sourds vont consulter pour les problèmes de tous les jours leur médecin habituel. Ils font surtout appel à notre réseau lorsqu'il y a une pathologie un peu plus compliquée, qui nécessite plus de compréhension, voilà. Ou une grossesse par exemple, hein. Le suivi des grossesses des femmes sourdes. On organise leur accompagnement à toutes les étapes de la grossesse avec un interprète partout où qu'ils aillent. Voilà. On a aussi une psychiatre et des psychologues qui travaillent dans l'équipe et donc qui peuvent recevoir les patients en langue des signes pour tout type de problème, donc de santé somatique ou de santé mentale. Voilà.
Très bien. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, la principale difficulté pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est quoi par rapport à l'accès aux soins ? C'est ce problème de communication ?
Alors déjà, je vais séparer les personnes sourdes et malentendantes. On a tendance à mettre souvent les deux dans la même catégorie. Ce sont deux problématiques tout à fait différentes. Et elles ont toutes tout en commun d'avoir un déficit auditif. Des oreilles qui entendent moins bien que la normale, hein, pour dire les choses simplement, ou pas du tout. C'était tout à fait différent pour d'être né sourd ou devenu sourd avant l'acquisition du langage oral, et donc d'être pour un nombre significatif de sourds dans cette situation-là, et d'être plutôt dans la langue des signes que dans l'écrit, que dans l'oral, que dans la langue française. Même si la plupart des sourds que nous voyons parlent avec la voix, ils oralisent, on comprend ce qu'ils disent, la plupart. C'est pas pour ça qu'ils ont accès à la totalité du discours. Voilà. Et donc, moi, j'ai l'habitude de distinguer les sourds non pas en fonction de leur degré de surdité, mais en fonction de la langue qui leur donne accès au savoir et de la langue qui leur parle. Voilà. La problématique des malentendants est tout à fait différente, parce que les malentendants, ce sont en général des entendants, hein, qui entendent moins bien et qui ont eu accès au français. Et donc pour lesquels le recours notamment à l'écrit était tout à fait utile, voilà, l'appareillage, etc. Et donc c'est tout à fait une autre problématique. Les sourds qui nous consultent, la plupart ont des difficultés d'accès à l'écrit. C'est pas lié à la surdité, c'est lié au système éducatif qui malheureusement en France ne conduit pas les sourds à avoir une bonne maîtrise du français écrit en fin de scolarité. Ça, c'est la situation majoritaire des sourds, malheureusement. Et c'est pas comme ça partout, hein, c'est une particularité ici. Et donc, c'est surtout cette population-là qui nous concerne. Pour un médecin, c'est une problématique tout à fait différente de recevoir un patient sourd, même s'il parle, et qui est plutôt locuteur de la langue des signes, donc il ne va pas comprendre tout ce qu'il dit parce qu'il va faire de la lecture labiale, et en lecture labiale, on ne peut pas comprendre tout ce qui est dit, hein, c'est de la suppléance mentale. Et donc, il y avoir des malentendus de compréhension, voilà. Et de recevoir un patient malentendant pour lequel, avec l'appareillage, il va pouvoir comprendre. Et si vraiment il n'entend pas du tout, on peut utiliser l'écrit. Et donc, c'est tout à fait une autre problématique. Donc, voilà. Et donc, nous, les sourds qui nous consultent, qui font appel à nous, ce sont les sourds qui ont besoin de langue des signes. Parce que si c'est des sourds qui ont besoin du français et de l'écrit, n'importe quel médecin est capable de faire l'effort d'écrire et de communiquer en français. Voilà. Mais en langue des signes, là, il faut un savoir-faire spécifique. Et donc, c'est ça notre particularité. C'est d'être là pour être cette interface de communication entre un professionnel de santé entendant qui ne connaît pas la langue des signes, et un sourd qui est le plus à l'aise en langue des signes et qui a besoin de langue des signes pour comprendre, et surtout pour comprendre. Se faire comprendre, ils arrivent en général, mais comprendre vraiment bien, il faut utiliser la langue des signes. Voilà.
Est-ce que vous pensez que ça freine les gens pour aller se soigner ?
Oui, je pense qu'un certain nombre de sourds qui, quand on leur demande de témoigner de leur parcours en matière de soins, ils disent souvent « oui, moi je vais chez le médecin, je suis en salle d'attente, chez un médecin qui ne pratique pas la langue des signes, je suis en salle d'attente, le patient qui est avant moi, il est resté 20 minutes dans le cabinet de consultation, et puis quand c'est moi qui passe, je reste 3 minutes, parce qu'il n'y a pas d'échange. » Et donc, de ce fait-là, ben, ils vont plus se faire soigner. Alors, on a, par rapport aux pathologies chroniques que j'évoquais avant, on a beaucoup de sourds en rupture de soins parce que toute une série de pathologies pour lesquelles il y a besoin d'un suivi régulier, d'un traitement, de respecter un régime, voilà, hein, je pense, diabète par exemple, ce sont des maladies asymptomatiques. L'hypertension, c'est asymptomatique, sauf des poussées d'hypertension très importantes qui donnent des problèmes, mais sinon c'est asymptomatique une hypertension. Le diabète de type 2, c'est asymptomatique. Donc les gens n'ont aucune plainte. Et donc, motiver des gens à se soigner lorsqu'il n'y a pas de plainte, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une maladie et que cette maladie nécessite un traitement. Et donc, il faut, c'est ça, qu'il faut créer du lien pour arriver à les faire se soigner. Et lorsqu'il n'y a pas de plainte, eh bien, on récupère comme ça régulièrement des sourds qui sont dans une consommation effrénée de soins lorsqu'il y a un problème aigu, lorsqu'il y a une plainte, une douleur, un problème, une fièvre. Enfin, voilà. Lorsqu'il y a un problème aigu, ils vont consulter. Et puis lorsque le problème aigu est passé, ben, ils ne voient plus l'intérêt d'aller consulter. Parce que pour les motiver à consulter, il faut échanger avec eux. Il faut leur expliquer c'est quoi un diabète, pourquoi est-ce qu'il faut se faire suivre régulièrement, c'est quoi, et pourquoi il faut respecter le traitement. Et c'est vrai que c'est rigoureux, ça demande une certaine contrainte au niveau du traitement, du suivi, du régime, etc. Mais c'est tout le travail du médecin de créer une alliance thérapeutique avec le patient pour le motiver à se traiter, à continuer à se traiter et à éviter les complications. Mais s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas ce lien qui se crée. Et donc, on a beaucoup de gens en rupture de soins, hein, parce qu'ils sont... voilà. J'ai toutes sortes de situations comme ça, hein, un peu dramatiques, de patients qu'on récupère à des stades où on se dit, mais bon, en fait, le problème qu'ils avaient, il est connu depuis 10 ou 15 ans. Et depuis 10 ou 15 ans, ils sont allés voir des médecins qui leur ont sans doute expliqué. Hein, je ne remets pas en question le professionnalisme de mes collègues, mais simplement, le patient n'a pas compris. Voilà. Et donc il a arrêté le traitement. Il ne voyait pas l'intérêt de prendre un traitement tous les jours. Si de toute façon, il n'a aucune plainte, ça ne change rien pour lui. Il ne voit aucun intérêt. Donc voilà, c'est ça la difficulté.
Très bien. Et donc, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous présenter les différents dispositifs qui sont mis en place dans l'accueil et l'accès aux soins des personnes sourdes, justement, pour contrer ce problème ?
Alors, sur la région Nord-Pas-de-Calais, il y a le réseau Sourds et Santé qui permet cet accès aux soins avec un point de consulte. Enfin, Le principe, c'est que ce qu'on fait passer aux sourds, s'il y a quelqu'un, hein, ici les sourds, évidemment, ils ne vont pas entendre l'émission, mais s'il y a un entendant qui connaît des sourds, il peut leur relayer le message. S'il y a des sourds qui ont des difficultés d'accès aux soins, ils peuvent contacter notre secrétariat et notre secrétariat va organiser leur recours aux soins là où ils souhaitent consulter. On ne va pas les obliger à venir nous consulter à l'hôpital. Ils peuvent aller consulter là où ils souhaitent. On va organiser les choses pour qu'ils aient un accompagnement avec un interprète lorsque c'est nécessaire. Voilà, ça c'est pour l'accès aux soins. Alors pour ce qui est l'accès à la vie sociale, la gestion des documents administratifs, etc., nous on ne s'occupe pas de ça, mais on est partenaire du réseau Sourds et Santé, le SAVS, donc Service d'accompagnement à la vie sociale Sourds Média. Et qui est notre partenaire et vers lequel on renvoie pour ce type de problématique là. Et donc là où ils ont des travailleurs sociaux qui vont accompagner les gens pour remplir une déclaration d'impôt, faire des gestions administratives, voilà, trouver un logement, etc. Enfin voilà, ils vont les aider pour ce type de démarche là. Et donc voilà, ça c'est ce qui existe sur la région en ce qui concerne l'accès aux soins et l'accès aux dispositifs. Après, il y a l'accès à la culture qui reste problématique pour les sourds. Il y a un certain nombre de manifestations culturelles qui sont interprétées en langue des signes de temps en temps, hein, dans certains musées, à Villeneuve-d'Ascq, au musée des Beaux-Arts à Lille ou à d'autres endroits. Mais ça reste, ponctuel. Donc le choix est quand même assez limité. Hein. Voilà, c'est... Alors l'accès à la politique, puisque maintenant on va rentrer en campagne électorale, vous voyez qu'il y a certains politiciens qui font interpréter leurs interventions en langue des signes. En général, plus on se rapproche de l'élection, plus ils mettent de la langue des signes. Et puis dès que l'élection est passée, ils mettent plus de langue des signes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Voilà, particulier, mais voilà, c'est comme ça.
Est-ce que ce type de dispositif existe ailleurs ou est-ce qu'il est limité à Lille ?
Non, je dis toute la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, parce qu'on est dans la région Nord-Pas-de-Calais. Après, ailleurs en France, il y a des dispositifs qui existent aussi. Le chiffre exact, je crois que c'est 24 ou 25. Il existe des unités d'accueil et de soins des sourds dans certains hôpitaux. Il y en a un peu répartis sur le territoire français. La particularité, alors par exemple, il y a ça à la Salpêtrière à Paris, aux Hospices Civils de Lyon, aux hôpitaux de Marseille, voilà, vous avez ça au CHU de Grenoble, au CHU de Rennes, voilà, vous avez des dispositifs similaire à ce que nous faisons à l'hôpital qui existe. La particularité de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est que dans notre région, le patient est libre d'aller consulter où il souhaite. Dans les autres régions, il doit aller consulter là, à l'hôpital où il y a une unité d'accueil et de soins des sourds. Il n'a pas le choix du lieu de consultation. S'il va dans cet hôpital-là, on va tout prendre en charge. S'il va ailleurs, il doit se débrouiller. La particularité du Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on a créé un réseau depuis maintenant près de 20 ans et qui permet d'aller consulter là où il souhaite, pas nécessairement à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se... Voilà, on peut choisir d'aller se faire soigner chez un médecin libéral, aller dans une clinique privée. Enfin, voilà, c'est les patients ont le libre choix. Donc ça, c'est particulier au Nord-Pas-de-Calais. Voilà.
Et du coup, par cette particularité-là, est-ce que vous remarquez que on va beaucoup plus vous solliciter que dans d'autres régions ?
Ah oui, c'est sûr. On a un recrutement qui est nettement supérieur aux autres régions parce qu'il y a ce libre choix. Voilà. Oui, ça c'est clair qu'on a beaucoup plus d'activités que d'autres régions. Ça c'est certain. Et plus on a, chaque fois qu'on a ouvert un lieu de consultation à distance, ça augmente les choses. On a ouvert il y a maintenant une bonne année à Airly, un centre de santé qui est géré par notre hôpital. On a ouvert des consultations à Airly un lundi matin sur deux. Ben, les plannings sont pleins à Airly. Si on ouvrait ailleurs, ce serait la même chose. Maintenant, on ne peut pas non plus. Moi, je consulte déjà dans 5 lieux différents. On ne peut pas se multiplier non plus à l'infini. Mais voilà.
Et donc, du coup, comment on pourrait généraliser à d'autres hôpitaux ces pratiques-là d'accès, d'accueil et de soins du coup, des personnes sourdes ?
Mais nous intervenons dans tous les hôpitaux. Donc, on peut faire appel au réseau et ils vont organiser l'interprétation là où le patient souhaite consulter, y compris ici. Voilà. Donc, ce qui est de particulier, c'est que les sourds qui sont concernés par ce type de dispositif, c'est 1/1000 de la population, donc c'est rare. C'est 1 patient sur 1000 pour un professionnel de quelque domaine que ce soit. Hein. Statistiquement, c'est à peu près ça. Et donc, c'est invisible. Et donc, dans les hôpitaux, lorsqu'il y a un sourd, ben souvent, il passe inaperçu parce que 1 sur 1000, voilà, ça passe à la marge comme ça. Et donc, c'est pas visible. Et donc, ça, Et donc, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, dans notre hôpital où on a une activité plus importante, c'est rentré dans l'habitude des professionnels de santé de savoir ils ont un sourd, ils en ont déjà eu plusieurs fois, ben on va faire appel au réseau. Voilà. Dans d'autres hôpitaux où ils ont moins de recrutement, c'est souvent le sourd lui-même qui doit faire appel à nous. Alors que dans notre hôpital, souvent, c'est le professionnel qui va finir par nous appeler. Vous voyez, donc on a inversé les choses parce qu'on s'est fait mieux connaître. C'est une question de nombre, hein. Et donc voilà. Mais les sourds
pour d'autres professionnels de faire affaire à voilà à vos services.
Mais une fois qu'ils ont eu un sourd en consultation avec un interprète, ils voient l'utilité. Ils se rendent compte, ah oui, c'est quand même autre chose que sans interprète. Et donc la fois d'après, ils vont peut-être demander l'interprète. Mais voilà, c'est 1 fois sur 1000. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors ça reste rare. C'est de l'ordre d'une fois par an. Voire moins. Et donc, c'est toute la problématique de sensibiliser quelque chose qui est rare. Pour le patient lui-même, c'est pas rare, c'est tous les jours. Mais pour le professionnel, voilà. Et puis, s'il tombe sur un sourd qui a des difficultés d'expression orale, ça arrive aussi, mais il le prend un petit peu pour un handicapé mental, voilà. Alors que s'il y avait un interprète, il verrait que c'est quelqu'un qui s'exprime tout à fait normalement.
Voilà, c'est juste pas forcément le même langage, du coup, entre le professionnel de santé et la personne sourde.
Oui. Ouais.
Nous allons maintenant écouter Carmen Flamand de l'association Trèfle à Arras.
Je m'appelle Carmen Flamand. Je suis en présence de Priscille Broda, qui est interprète en langue des signes. Donc je m'exprime en langue des signes et Priscille Broda traduit. Je suis née entendante et je suis tombée malade, fortement malade. J'ai fait une allergie à un médicament qui était trop puissant pour moi et j'ai perdu l'audition suite à cela.
Quels ont été les moments où la surdité a pour vous été un frein? Quelles ont été les alternatives que vous avez pu mettre en place pour dépasser en fait ces freins?
Alors, le frein principal, c'est la communication. Quand on est face à une personne qui ne connaît pas la langue des signes, moi qui ne suis pas en mesure de parler, ça crée vraiment un obstacle dans la communication. Donc la solution, c'est de faire appel à un interprète. Il y a bien sûr des complications, quand par exemple pour les appels téléphoniques. Voilà, alors maintenant on a la solution, par exemple Roger Voice. On met un écran face à nous, on communique en langue des signes et on a un interprète qui est derrière l'écran et qui peut traduire notre entretien téléphonique.
Et vous-même, comment vous pouvez réussir à compenser, par exemple dans la vie de tous les jours, par rapport à ces obstacles ?
Dans la vie de tous les jours, en fait, j'ai pris l'habitude de ces différents obstacles. Donc l'important, c'est vraiment d'anticiper. Et puisque je sais les difficultés que je vais rencontrer, donc par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le notaire, un rendez-vous chez le médecin ou autre, eh ben, je fais appel à un interprète. Ce qui est important, c'est d'anticiper et de prévoir tout ça avant.
Est-ce qu'il y a des moments où du coup vous êtes senti obligé d'être en retrait en fait, parce que vous avez une impossibilité pour pouvoir communiquer avec des personnes? Vous avez dû ne pas faire quelque chose parce que la communication n'aurait pas été possible.
Alors non, je ne me mets jamais en retrait, hein, puisque je fais toujours l'effort de trouver une solution malgré les obstacles. Les obstacles, s'il n'y a pas d'interprète, eh ben, ce n'est pas grave, on communiquera par écrit. Il y a toujours une solution, on essaye de mimer un peu. Alors je suis formatrice en langue des signes. Donc, je sais aussi m'adapter, hein, j'ai développé cette capacité. Et clairement, je ne me mets jamais en retrait, je n'abandonne pas et j'y vais.
Qu'est-ce que vous pensez de l'accès aux soins pour les personnes sourdes ou malentendantes ?
De manière très générale, l'accès aux soins est très compliqué pour les personnes sourdes. La chance que l'on a dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on a le réseau Sourds et Santé, qui est une association qui permet aux personnes sourdes d'être accueillies avec une accessibilité qui est prévue. Malheureusement, on a eu par exemple là l'événement du Covid pour les vaccins. Là, par exemple, si on voulait se faire vacciner, il fallait aller sur Doctolib. On prend rendez-vous. Malheureusement, sur place, on avait des obstacles dans la communication puisqu'aucun interprète n'était prévu. Donc nous, voilà, on essayait de communiquer par papier. On avait des questionnaires déjà faits. On prévoyait les questions sur un papier qu'on remettait. On essayait de répondre, de communiquer comme ça avec les soignants. Et ensuite, une fois qu'on avait rempli les questionnaires ou posé nos questions par écrit, on pouvait communiquer. Donc, voilà, c'est un exemple, mais dans l'accès aux soins, de manière générale, ça reste très compliqué. Moi-même, par exemple, je fais partie d'une association à Amiens et on milite justement pour l'accessibilité au niveau sanitaire. À Amiens, avant, il n'y avait aucune accessibilité pour les personnes sourdes, donc on a vraiment dû se battre pendant 10 ans. Et enfin, on a réussi, il y a 2-3 ans, je crois, ça fait 2-3 ans. On a réussi à créer quelque chose pour permettre l'accessibilité aux soins des personnes sourdes. Et j'espère que ça continuera.
Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, avoir des interprètes en langue des signes dans les hôpitaux ou ce genre de choses? C'est ça qui manque?
Oui, il faudrait des interprètes. Il manque des interprètes ou il faudrait aussi peut-être que le corps médical, les médecins, les infirmières se mettent à apprendre la langue des signes. Par exemple, au mois de septembre, on a eu un groupe d'infirmières qui... Voilà, les infirmières sont venues d'Arras, de Lens, de Saint-Amand-les-Eaux, près de Valenciennes, et elles sont venues apprendre et se former à la langue des signes. Donc ça commence à s'ouvrir quand même dans ce milieu-là, ça commence à se répandre. Et pourquoi pas que ce soit les infirmières ou autres. Alors bien sûr, on continuera de faire appel à des interprètes, mais il y a également les intermédiateurs sourds. Ce sont des personnes sourdes elles-mêmes qui adaptent Le discours, par exemple, pour des personnes, d'autres personnes sourdes, pour qui la compréhension est plus difficile. Par exemple, si un médecin explique une maladie complexe, et l'intermédiateur va assimiler ces explications et les reclarifier auprès du patient sourd, et de manière à ce que ce soit mieux compris, plus visuel, voilà. Par exemple, pour les sourds, les personnes sourdes âgées, ça peut être parfois difficile de comprendre. La langue des signes a énormément évolué. Donc, pour nous, ça va, bien sûr. On peut directement comprendre les explications du médecin. Mais pour certaines personnes, notamment les sourds âgés, ils ont besoin d'un intermédiateur en langue des signes pour pouvoir se réadapter à leur langue des signes et que la langue des signes puisse être naturelle et comprise.
Et plus globalement, dans la société, est-ce que vous pensez qu'elle est adaptée aux personnes sourdes et malentendantes et qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites pour que ce soit le cas ?
Est-ce que la société est adaptée ? Non, c'est très très compliqué. Alors on progresse doucement. Alors, enfin, par exemple, mardi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a permis qu'il y ait un interprète avec une vignette beaucoup plus grande sur l'écran. C'est vrai qu'auparavant, la vignette était toute petite et là, l'interprète occupait beaucoup plus de place sur l'écran. Donc, enfin, je me dis, on est en 2021. La loi de 2005 avait prévu ces aménagements et là, on est en 2021. Enfin, il se concrétise. La situation avec la crise sanitaire nous a permis de voir des ministres, le président et autres qui faisaient appel à des interprètes, alors qu'avant, on n'en avait pas du tout. Et c'était une réclamation de notre part. C'était aussi un droit pour nous de pouvoir être informés et soignés. Donc on s'est beaucoup battu, nous les sourds, pour avoir cette accessibilité-là. Alors tout n'est pas accessible entièrement, il lui faut le reconnaître.
Quelle place pourrait prendre la langue des signes dans la communication ?
La loi de 2005 reconnaît la langue des signes. Depuis 2005, il faut dire que les choses ne se sont pas concrétisées. Forcément. On en parlait tout à l'heure. La base, pour moi, ce serait de commencer par l'école, avec les jeunes enfants, d'apprendre la langue des signes. Ce serait beaucoup plus simple pour eux de l'assimiler en grandissant. Pour moi, la solution, ce serait déjà de former les enfants dès leur plus jeune âge. Je suis moi-même maman de deux enfants entendants, et elles sont nées avec la langue des signes, puisque mon mari et moi, nous sommes sourds tous les deux, et nous avons communiqué en langue des signes avec nos enfants, comme si c'était une langue étrangère. Alors après, il faut dire aussi que je suis espagnole d'origine, donc j'ai incité mes enfants à parler espagnol, et mon mari, lui, vient d'une famille française, donc il a parlé, dans sa famille, il parlait en français, et nous, on a apporté la langue des signes. Et voilà, dès le plus jeune âge de nos filles, elles ont entendu parler français, espagnol, elles ont vu la langue des signes, elles sont maintenant trilingues, et moi, je me dis que c'est tout à fait possible d'envisager ça avec les autres enfants. S'ils apprennent déjà dès leur plus jeune âge, ce serait une solution.
Est-ce que vous pensez à d'autres solutions, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites assez simplement et mises en place, en fait, pour qu'il y ait une meilleure communication, compréhension ?
Pour une meilleure communication, ce serait de commencer par la base, que les enfants puissent apprendre la langue des signes. Pour moi, tout démarre de là. Je prends l'exemple, on a Mediapi, qui est une source d'information pour les personnes sourdes. Tout le monde pourrait s'entraîner, par exemple, en regardant ce média. Donc Mediapi pourrait regarder les informations avec des journalistes professionnels et autres. Et donc ça se passe sur Internet. Mais les personnes pourraient s'entraîner en essayant de comprendre aussi. Et ça, c'est un accès aussi à la communication et aux informations pour nous. Par exemple, dans les informations données, il y a des informations sur le soin, sur le vaccin. Parce qu'à la télévision, c'est vrai qu'au niveau des sous-titres, c'est souvent compliqué. Il y a souvent des décalages ou autres. Tandis que là, on a les informations directement en langue des signes.
Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de 2005, dont certaines des mesures sont apparemment mises en place qu'aujourd'hui, en 2021. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de de volonté politique, en fait, pour appliquer les lois? Ou est-ce que globalement, ce seraient les lois qui ne vont pas assez loin?
En effet, question délicate, au niveau politique. Alors bien sûr, au niveau de la politique, on souhaite l'inclusion. L'idée, c'est vraiment d'inciter les personnes à faire partie de la société. Mais concrètement, la loi de 2005 garantit promet l'accessibilité aux personnes sourdes, mais elle leur propose une intégration. C'est-à-dire que dans les collèges, les lycées, les universités, les personnes sourdes y seraient intégrées. Sauf que dans les faits, les enseignants ne connaissent pas la langue des signes. Donc il y a un problème de formation déjà à ce niveau-là. Le ministre de l'Éducation nationale, je sais pas en fait dans quelle mesure, pourquoi il n'intervient pas. Par exemple, pour les personnes AESH, c'est-à-dire celles qui accompagnent les enfants handicapés mais avec toutes sortes de handicaps, voilà, elles accompagnent donc des enfants. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément formées pour les différents handicaps, pour la dyslexie, pour l'autisme, pour... voilà. Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi ce manque de formation? Les enfants sourds sont intégrés avec les entendants, mais finalement, ce sont les seuls sourds parmi des tas d'entendants. Alors bien sûr, au niveau politique, on dit il faut inclure les personnes handicapées, les personnes sourdes. Mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un décalage avec ce qui est dit. Donc nous, c'est vrai que c'est une grande inquiétude pour les enfants sourds. On s'inquiète pour eux parce qu'il leur manque la langue des signes. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, au bac, on propose une option. L'option LSF, c'est-à-dire que les entendants peuvent eux-mêmes apprendre la langue des signes. Alors ça, c'est chouette, mais pour nos enfants sourds, pour les enfants sourds, quelle accessibilité on leur propose? Est-ce qu'on leur propose de la langue des signes? Et il n'y en a pas, pas forcément. Et du coup, il y a un vrai décalage. C'est super qu'on puisse donner l'occasion aux élèves entendants d'apprendre la langue des signes pour la valoriser, le faire valoir au bac, mais pour les enfants sourds, quels aménagements on propose? Donc c'est un vrai manque.
Très bien. Donc suite à cette interview, docteur Drillon, est-ce que vous voulez réagir peut-être à ce qui a été dit?
Oh, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Oui, je pense qu'elle fait un tableau assez complet de la problématique. Voilà. Donc peut-être ajouter que par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, donc elle a évoqué la problématique de la vaccination, là, parce que ça a été une grosse problématique. Donc, effectivement, les rendez-vous se prennent sur Doctolib. Alors, déjà, la problématique, c'est que pas mal de sourds... c'est pas si simple que ça, quand même, hein, Doctolib. Hein, pour quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec l'informatique, il y a pas mal de patients qui... Enfin, je pense que ce n'est pas seulement les sourds, hein, il y a d'autres personnes aussi, mais qui sont en difficulté sur le plan technique de manipuler. Voilà, c'est pas si simple que ça, hein, quand on n'est pas habitué à utiliser l'informatique. Et puis, c'est effectivement... le problème de l'interprétation. Alors, on a essayé de répondre à la demande. On a organisé, alors uniquement sur l'hôpital Saint-Philibert à Lille, parce qu'on ne peut pas le faire ailleurs, on a organisé plusieurs centaines de vaccinations. On faisait des plages, des après-midi entières de vaccination pour des sourds avec deux interprètes. Et donc, on a vacciné plusieurs centaines de sourds en quelques jours sur Saint-Philibert. Et maintenant, pour la troisième dose, même chose, on revaccine, on fait des groupes. Ça permet, parce que la vaccination, ça ne dure pas très longtemps. Donc, si on doit mobiliser un interprète qui doit aller interpréter 10 minutes à 100 km, c'est un peu coûteux. Hein, voilà. Donc là, l'idée, c'était de rassembler les sourds dans un même endroit et de les vacciner tous, voilà. On a quand même assuré plusieurs centaines de vaccinations, comme ça, de sourds. Alors, par rapport à l'épidémie de Covid, hein, ça n'a pas été évoqué dans le témoignage, là où je n'ai pas dit auparavant, ce qui a compliqué fortement les choses pour les sourds dans l'accès aux soins, c'est le port du masque. Puisque, quelle que soit la modalité de communication, que ce soit en langue des signes ou en lecture labiale, et surtout si c'est en lecture labiale, ben, il faut voir le visage. Et donc, voilà, le masque complique fortement les choses. Et donc ça, ça a encore aggravé la situation de pas mal de sourds. Et donc nous, on a dans les lieux de consultation dans lesquels nous consultons, on a équipé les cabinets avec une séparation vitrée qui permet de faire la partie entretien de la consultation au travers d'un vitrage, ce qui permet d'enlever le masque en toute sécurité. Et puis la partie examen clinique, on remet le masque et on passe dans la salle d'examen. Mais voilà, on scinde la consultation en deux temps pour que ce problème soit levé, parce que sinon c'est vraiment une grosse problématique. Et troisième chose par rapport à l'épidémie de Covid, donc il y a eu au début de l'épidémie, c'est tombé un peu comme une massue là en janvier, vous vous souvenez, je ne sais plus la date exactement, mais voilà, tout d'un coup tout le monde confiné chez lui avec des autorisations, enfin vous vous souvenez de cette histoire là il y a eu de la communication gouvernementale, etc. Mais les sourds ne comprenaient rien à ce qui se passait, hein, ou très peu. Et donc, très rapidement, nous, on a, sur la page Facebook du réseau Sourds et Santé, on a fait des capsules vidéo avec l'information en langue des signes sur les mesures gouvernementales qui étaient décidées. Hein. On a fait ça de façon très artisanale. Hein. Donc, c'était le soir, on avait le président qui faisait une communication télévisé, et puis nous on regardait ça, et puis avec les sourds de l'équipe on a réécrit le soir, et le lendemain matin on publiait une petite vidéo pédagogique en langue des signes pour expliquer les mesures qui avaient été prises, et on est les seuls à avoir fait ça en direct comme ça, très rapidement, avec c'était tout fait sur smartphone de façon très artisanale, et ça a eu un retentissement absolument énorme, puisqu'on a eu la page Facebook du réseau Sourds et Santé. Alors, comme on faisait ça en urgence, un petit peu comme ça, on n'avait pas des moyens spécifiques, donc on le faisait uniquement en langue des signes, sans sous-titrage et sans voix off, donc vraiment que en langue des signes. Et on a eu, en 6 mois, on a eu plus d'un million de vues de ces vidéos-là. Donc, c'est tout à fait considérable, parce que les sourds, c'est que 1/1000 de la population. Et donc, c'était le seul endroit où ils avaient de l'information, on va dire, presque en direct. Hein. C'était souvent différé d'un jour, le temps qu'on fasse les choses, sur les mesures prises par le gouvernement, comment fonctionnaient ces autorisations. Vous vous souvenez qu'on ne pouvait pas aller à un certain nombre de kilomètres, etc. Enfin, voilà. Et tout ça, il fallait l'expliquer. Voilà. Et donc, on a répondu à cette demande un peu dans l'urgence. Et ça, voilà, ça fait aussi partie de nos missions, hein, de rendre accessible ce type d'information. Et on continue de le faire. Hein. On a fait une... Sur la 3e dose du vaccin, on a aussi fait... Voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui vient dans le cadre de cette épidémie, on fait une info en langue des signes. Voilà. Et c'est intéressant de voir que c'est fort regardé. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir les commentaires qui sont en dessous, où souvent, il y a des gens qui disent « Ah, enfin, j'ai compris ouais. ». Voilà.
On ressent le réel besoin.
Oui, c'est sûr. Et alors, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que le fait d'avoir de l'incrustation d'un interprète à l'écran, comme vous avez, comme hein, madame, la personne qui a témoigné avant l'a dit, madame Flamand, donc c'est évidemment ça, plus le sous-titrage, c'est ce qu'on peut faire de mieux en direct. Mais malgré ça, l'information ne va pas être... Un certain nombre de sons ne vont pas bien comprendre. Parce que ça reste une interprétation d'un discours, et ce n'est pas un discours donné directement en langue des signes. C'est tout à fait différent. C'est un petit peu comme si vous allez à une conférence qui est donnée dans une langue que vous ne maîtrisez pas, et il y a de l'interprétation simultanée qui est faite à l'oral, hein, et on vous interprète en français le discours qui est dit. Eh bien, parfois, ce n'est pas évident de comprendre exactement tout ce qui est dit et toutes les nuances, parce que ça reste une interprétation du discours. Et c'est beaucoup plus facile d'écouter le discours directement dans sa propre langue. Ben, c'est la même chose en langue des signes. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que même quand c'est interprété en langue des signes, on le refait, mais directement en langue des signes, par un locuteur natif de la langue des signes qui va l'exprimer naturellement avec sa façon de signer, et beaucoup plus naturellement qu'une interprétation, qui est évidemment utile, hein, c'est très important de faire ça, mais Mais voilà, c'est un autre niveau de compréhension.
Et donc, Madame Flamand évoquait dans son interview la loi de 2005, donc qui impose des règles d'accès et d'accueil pour les personnes sourdes. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est respecté, enfin, comme elle a pu le souligner?
Bon, ça a permis quand même qu'un certain nombre de choses évoluent, mais ça reste imparfait, et parce que c'est très compliqué. Alors. Le nombre de sourds qui pratiquent la langue des signes, je vous dis, 1/1000 de la population. Alors, quand on nous dit, oui, ce serait bien que les professionnels de santé apprennent la langue des signes. Mais on ne peut maîtriser une langue que si on la pratique. Alors, si vous allez apprendre la langue des signes et que vous ne la pratiquez jamais, parce que ça, ce n'est que 1/1000 de vos consultants, donc ça veut dire que pour un médecin lambda, hein, qui ne voit pas beaucoup de sourds, il en voit peut-être un par an. Ben, il va pratiquer sa langue des signes donc pour une consultation sur l'année. Et donc il va oublier. Donc c'est un peu illusoire de penser former tous les professionnels de santé à la langue des signes. C'est pas très, très... Ça demande beaucoup d'investissement, c'est très coûteux et c'est pas rentable. Voilà, parce que le médecin va pas se former à ça. Donc par contre, c'est utile d'avoir une sensibilisation. Ça, nous, on organise des formations de sensibilisation à la langue des signes, de sensibilisation à la façon de communiquer avec un sourd, et surtout que les professionnels de santé soient au courant des dispositifs existants, à quoi ils peuvent faire appel. Mais voilà, former tout le monde à la langue des signes, c'est un peu, les sourds, ils disent ça parfois, mais c'est un peu illusoire, ça. Je pense qu'il faut être raisonnable et on n'arrivera jamais à ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut plus avoir des équipes, plus d'interprètes, plus de moyens d'interprétation mobilisables partout. Mais il vaut mieux avoir peu de professionnels, mais très bien formés, que d'avoir plein de professionnels qui savent à peine dire bonjour et comment ça va. Vous voyez, donc, il faut faire un choix. Hein, c'est... Voilà, après, c'est sûr, apprendre la langue des signes, si on a l'occasion d'entretenir sa langue des signes, où que ce soit, dans le privé, parce qu'on a des sourds dans la famille, parce qu'on fréquente des associations de sourds, etc., oui, on va pouvoir entretenir. Mais si on ne la pratique jamais, elle va s'oublier comme toute langue. Toute langue doit se pratiquer, sinon elle s'oublie.
Pourtant, enfin, si on compare à l'apprentissage de langues étrangères, justement, combien de personnes connaissent des langues étrangères et pourtant elles ne la pratiquent pas tous les jours. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas avec la langue des signes ?
Oui, enfin, je suis assez sceptique de savoir le niveau de langue auquel on arrive lorsqu'on a appris la langue dans une école et qu'on ne la pratique jamais. Voilà, c'est... Moi, les langues que j'ai appris, les langues étrangères, hein, j'ai appris le néerlandais, puisque je suis belge, j'ai appris l'anglais à l'école, et je maîtrise ces langues-là de façon scolaire, mais je serais incapable de faire une consultation en néerlandais. Oui, je peux demander, vous avez mal où, comment ça va, mais si ça avait été un peu fin, etc., non, ça va pas, voilà. C'est...
Donc pour vous, ce serait mieux de favoriser une qualité sur un petit nombre de professionnels que d'avoir tout le monde qui parle la langue des signes.
Oui, par contre, avoir que les professionnels, et c'est ce qu'on essaye de faire, hein, on le fait ça dans les écoles d'infirmières, j'interviens dans 6 ou 7 écoles d'infirmières, hein, IFSI de la région, aux facs de médecine, sages-femmes, etc., on donne des formations régulièrement. On leur donne une initiation à la langue des signes, évidemment, hein, parce que sinon, voilà, ils sont en attente de ça. Mais le but, c'est pas qu'ils repartent en sachant signer, parce qu'on sait qu'ils vont oublier. Le but, c'est qu'ils aient compris comment fonctionnent les sourds, à quoi il faut faire attention, pourquoi ils sont en difficulté de compréhension d'un certain nombre de choses. Et si on a compris les choses, on va déjà pouvoir adapter sa façon de communiquer. Savoir que ça sert à rien pour un sourd de naissance qui maîtrise pas bien le français de lui faire de lui écrire les choses, de lui donner des textes écrits, ça sert à rien. C'est totalement inutile. Il faut voilà. Et puis surtout de savoir à qui on peut faire appel. Où il y a des relais, il y a des relais existants. Nous, le réseau Sourds et Santé, on ne remplace pas les professionnels de santé du droit commun. Le patient, il consulte le professionnel de santé de droit commun, je veux dire, de son quartier, voilà, de où il souhaite consulter. Nous, on est là pour ajouter la couche pour que ça communique bien. Mais on ne va pas remplacer le professionnel de santé. C'est lui qui va soigner, mais simplement, on va pouvoir apporter ce qu'il faut pour que ça communique, voilà. Après, c'est, par exemple, dans le témoignage de ma femme, elle disait, ce serait bien qu'il y ait des interprètes dans les hôpitaux. Oui, alors le problème, c'est que dans un hôpital, s'il y a un interprète dans un hôpital et qu'il n'y a pas de sourd qui vient, qu'est-ce qu'il fait l'interprète ? Donc voilà, donc il faut qu'il y ait un interprète mobilisable sur demande, sur planification du rendez-vous, mais imaginer que dans tous les hôpitaux il y ait une permanence d'interprète, c'est pas gérable, ça va coûter très cher et l'interprète va être mobilisé une fois sur la journée pour un quart d'heure. Et le reste du temps, elle va faire quoi ? Donc il faut qu'il y ait des interprètes mobilisables, qu'on puisse appeler sur planification. Alors ça ne résout pas le problème des urgences, où il reste cette problématique de soins non planifiés, soins d'urgence en général, où ça c'est plus difficile d'y répondre. On pourrait imaginer de répondre à ce type de demande, mais il faudrait des moyens complémentaires. Il faudrait pouvoir assurer des astreintes à l'interprète. On va dire à un interprète, vous êtes d'astreinte tel jour, telle nuit, il faut qu'on puisse payer l'astreinte. Ils ne vont pas faire ça bénévolement, et donc on n'a pas les moyens de payer des astreintes. Mais ça, ce serait l'idéal, c'est qu'on puisse payer des astreintes d'interprète. Et ça résoudrait la problématique des soins non programmés. Voilà.
Peut-être d'autres questions, si quelqu'un avait des interrogations.
Est-ce que notre petit public veut poser une question ? Est-ce quelque chose qui l'aurait interpellé ?
Non, tout a été dit. Très bien. Donc, dans ce cas, cette émission va se terminer. Nous remercions donc le docteur Drillon du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et du réseau Souris Santé. Merci également donc à Carmen Flamand de nous avoir reçus, de l'association Trèfle sur Arras. Et merci à la Maison des habitants pour son accueil. I was a quick...